Salut, c'est Alexis et nous sommes le 18 mars 2025 et je vais vous répondre enfin à la question « Est-ce que le no-code est mort ?» Voilà, bon, c'est un début très formel qui ne va pas du tout être comme ça, mais bon, en fait, je fais ce message vraiment comme, cet épisode de podcast, un petit peu comme un message que je ferais, un vocal que je ferais à répondre, parce que vraiment, j'ai reçu pas mal de fois cette question, alors sous des formes différentes, hein, c'était pas tout le temps littéralement est-ce que le no-code est mort, mais voilà, donc je me suis dit, voilà, comme c'est une question qui m'agite moi aussi en ce moment, eh bien je fais un petit épisode de podcast pour y répondre. Alors si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, je vous recommande de le faire parce que c'est important, parce que je vais évoquer le vibe coding dans cet épisode, et donc voilà, si vous voulez savoir ce que ça veut dire, eh bien vous écoutez l'épisode précédent. Deuxième chose à mentionner, c'est que je suis en train de me promener donc à Shiogama, dans la région de Sendai, dans le nord du Japon. Et voilà, et c'est un épisode important, peut-être que j'aurais dû le faire en étant confortablement assis. Je vais essayer de trouver un petit peu un coin où il n'y aura pas trop de bruit. Mais je dois dire que j'avais envie un petit peu de marcher en même temps que je fais cet épisode. D'une part parce qu'il fait très beau. Et d'autre part, parce que le fait de marcher me permet de concentrer un petit peu mes idées. Alors, les gens me regardent un petit peu bizarrement dans la rue, mais c'est pas grave. Voilà, donc on verra. Je sais pas si je garderai un peu les bruits d'ambiance ou si j'appliquerai mes filtres habituels qui sont assez efficaces. J'espère que le son, en tout cas, sera bon. Voilà. Je vais vraiment essayer de trouver des endroits où il n'y a pas de voiture, mais bon. Donc, on va attaquer tout de suite le sujet, parce que j'ai fait une beaucoup trop longue intro de 2 minutes, mais je voulais vous placer un petit peu le décor. Et encore une fois, voilà, c'est moi aussi qui a bougé beaucoup de doutes en ce moment, un petit peu à l'image de la communauté no-code. La communauté no-code, l'écosystème no-code, j'ai envie de dire, dans son ensemble, semble pris de doutes. Et je le comprends. Et c'est pour ça, probablement, que je reçois tous ces messages. C'est pour ça que moi-même, j'ai ce sentiment depuis plusieurs mois d'avoir un peu l'esprit obscurci, bon, parce qu'il y a aussi différents projets qui m'animent, etc. Mais voilà, j'ai du mal à voir un peu tout ce qui se passe avec l'IA, hein, évidemment, c'est ça le fond du sujet, par rapport à ce que ça veut dire par rapport aux choses sur lesquelles on travaille depuis 5 ans, 6 ans même. Et je vais vous livrer un petit peu ce que je pense, parce que donc là, depuis quelques jours, plus spécifiquement, vraiment, j'ai essayé de mettre mes idées sur papier, vraiment un petit peu structurer ma pensée, même si ce n'est pas évident. Alors déjà, pourquoi ? Pourquoi on en est là ? Donc le point de départ, comme je disais, c'est un petit peu tous ces messages que je reçois, mais ces messages, ce ne sont que les symptômes d'un truc un peu plus grand. Moi, mon analyse, en fait, elle est très simple. Ça fait 2 ans, un peu plus, 2 ans et demi maintenant, qu'on a vraiment un buzz incroyable. Depuis la sortie de ChatGPT, novembre 2022, tout le monde se souvient de cette date et de ce moment. Marquer un petit peu l'histoire. Et donc voilà, nous voilà 2 ans et demi plus tard, avec vraiment plein de choses qui ont changé dans notre monde, et ça continue. Alors c'est pas non plus, les choses n'ont pas changé dramatiquement, il y a des choses bien pires qui se passent dans le monde qui nous affectent tous bien plus, mais c'est vrai qu'on peut pas nier qu'il s'est passé quelque chose. Moi, mon constat, il est simple, pourquoi on a ce petit vent de panique en quelque sorte? Il y a des vraies raisons, hein. Il y a des vraies choses qui se passent. C'est pas une panique juste inconsciente à cause d'un mauvais buzz, mais c'est juste, il y a des choses qui se passent. Bon, la première chose pour moi, c'est que le vibe coding, donc ce que j'évoquais dans l'épisode précédent, vraiment cette manière de faire de manière un peu désinvolte, j'ai envie de dire, de la programmation avec de l'IA, eh ben, elle est en train de semer le doute dans la tête des gens par rapport à tout ce qui est programmation visuelle. Quand je dis programmation visuelle, des outils très établis comme Bubble, comme WeWeb, comme Webflow, tout ce qui permet de faire des applications, des sites web. Et je distinguerai d'ailleurs un petit peu les deux, parce que c'est un petit peu différent. Mais donc, ces outils-là se sentent, et les gens surtout qui les utilisent, j'ai envie de dire les no-codeurs et les no-codeuses qui les utilisent, se sentent menacés. Et évidemment, c'est normal, parce qu'on voit débarquer des gens qui, en 10 minutes, vont faire des applications complètes avec Bolt et Lovable. Alors, il faut bien voir que ce qu'on entend par là, hein, des applications complètes, mais oui, c'est indéniable, et maintenant, ça fait plusieurs fois que je discute avec des gens qui ont des agences, ou des prospects potentiels viennent les voir et leur disent « Ah, j'ai fait ça en 10 minutes avec Lovable, maintenant, refaites-le moi bien, professionnellement. Sauf que le problème, c'est qu'ensuite, il y a un différentiel parce qu'ils se disent, j'ai fait ça en 10 minutes. Forcément, ils se disent que l'agence, elle n'a pas besoin de 3 mois pour le faire bien, quoi. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, le faire bien? Ça, c'est tout un débat. Mais donc ça, c'est première cause vraiment de doute qui me paraît inévitable. Il faut que je fasse attention à ne pas marcher trop vite parce que sinon, je vais commencer à être essoufflé. S'il y a la moindre montée, là, ça va être terrible. Deuxième chose, il y a un deuxième phénomène qui est parallèle. Donc ça, c'est sur la partie, souvenez-vous, hein, quand on parle de no-code. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû replacer un petit peu ce que c'est le no-code, mais je vais le dire après. Mais, enfin, ce que c'est pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le no-code, ça veut un peu rien dire, mais on va revenir dessus. Mais donc, le mouvement no-code, dans son ensemble, globalement, divise deux grands sujets. La création d'applications et tout ce qu'on appelle les ops, ceux dans quoi on est spécialiste chez Contournement, les ops, ou tout ce qui est plutôt, on va dire, automatisation, ce genre de choses. Alors, je vais traverser cette grande rue, parce qu'il va y avoir beaucoup trop de bruit par ici. Et ensuite, et donc, sur la partie app, donc, comme je dis, une grosse menace venant du vibe coding. Mais sur la partie ops, il y a aussi cette menace latente, notamment ce buzz que l'on n'arrête pas d'entendre ces derniers temps, autour des agents. Et là, sur la question des agents, sur les ops, c'est quelque chose que je maîtrise encore bien mieux que toute la partie création d'applications. Sur la partie ops, il y a un buzz qui n'est vraiment pas justifié. C'est-à-dire que là, les agents, on nous en sert à toutes les sauces, mais 90% du temps, on ne parle que d'automatisation un petit peu plus... J'ai envie de dire, en fait, les agents, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est des automatisations approximatives, mais pas dans un sens négatif. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous pouvez faire une automatisation qui, globalement, va chercher vos mails, faire des opérations, sans que vous ayez à les programmer de manière très précise. Donc, c'est vrai que par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire avec Zapier ou Make ou N8N avant, eh ben maintenant, il y a cette notion d'agent qui existe, qui est maintenant implémentée chez Zapier et chez N8N, hein, très bien, qui permet de faire des automatisations un peu différemment. Mais ça reste que des automatisations. Néanmoins, ça fait aussi une grosse menace, évidemment. Enfin, ça instille le doute, parce que à force de nous répéter, d'entendre chez les moindres youtubeurs que voilà, il y a des agents qui vont remplacer tout le monde, qui tout le truc, et ben on se dit, on n'a plus pourquoi faire des automatisations si on va avoir des agents magiques. Et ça m'amène au troisième point, qui à mon avis est un peu source de cette confusion et de cette panique un petit peu dans notre écosystème, c'est tout simplement les agents à nouveau, différents, là, qui sont vraiment autonomes, comme on a eu très récemment Manus, je ne sais pas comment on prononce, je n'arrête pas de à chaque fois me planter peut-être. Et donc ça, c'est très très intéressant, parce que ça englobe tout. C'est-à-dire que Manus, on a l'impression qu'on lui donne, on peut lui dire n'importe quoi, il va nous créer des applications, des automatisations. Et donc là, il y a une grande confusion aussi dans cette notion d'agent un peu... Bon, là, qui est vraiment, il y a une forme d'autonomie. Hein. Je reconnais que les démos que j'ai vues de Manus, j'en ai parlé déjà un peu dans le podcast, dans la newsletter, il y a des choses impressionnantes. Mais bon, marche quand même pas non plus tout le temps. Mais voilà, et donc là, on a un peu l'impression que on peut lui demander n'importe quoi, autant de trier nos mails, de faire ce qu'on faisait avant vers des automatisations, que lui demander de créer des applications. Donc ça, c'est le troisième level. Pour moi, c'est celui qui est le plus lointain, parce que très franchement, en réalité, si vous regardez bien, ça marche que à moitié. Mais bon, forcément, on se projette un petit peu aussi dans le futur, quoi. Et donc voilà, tout ça fait que on arrive un petit peu. Donc voilà, donc je pense que c'est important de le dire, parce que déjà ça explique, c'est-à-dire que maintenant, si vous êtes d'accord avec ce que je viens d'évoquer, vous comprenez d'où vient cette confusion. Ça m'a pris du temps aussi un petit peu à formaliser ça comme ça, mais voilà, c'est ça qui introduit de la confusion. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est quand même rappeler aussi ce que c'est le no-code. Maintenant que j'ai dit tout ça, est-ce que le no-code est mort? Déjà, moi, j'essaye de plus trop utiliser le no-code comme un nom, parce que je trouve que c'est un peu étrange, ça peut tout rien dire. Pour moi, quand on parle de mouvement no-code, de no-code, c'est un raccourci pour parler du mouvement no-code. Et le mouvement no-code, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est l'ensemble des outils no-code. Ça a du sens de dire quelque chose. Les outils no-code, ça désigne une catégorie d'outils très précise. Après, qui est large, avec de la programmation visuelle, etc. Et ça, justement, on va revenir. Mais ça définit un ensemble d'outils que l'on connaît tous, de Bubble à Softr, de Airtable à Make, on connaît tous, on l'utilise. Si vous écoutez ce podcast, probablement vous faites partie de ce mouvement no-code parce que vous êtes utilisateur ou utilisatrice d'outils no-code. Ça fait de vous des membres de la communauté no-code et du mouvement no-code. Pour moi, le mouvement no-code, c'est tout simplement les outils plus la communauté. Là où les communautés, parce que il y a différentes communautés, il y a la communauté no-code France, par exemple, mais il y a aussi les communautés de chaque outil. Donc, voilà, ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Voilà. D'ailleurs, au passage, si ce sujet-là vraiment vous intéresse d'avoir ma vision du no-code, je suis en train de finaliser mon abécédaire du mouvement no-code, qui ne s'appelle pas l'abécédaire du no-code, hein, ça s'appelle l'abécédaire du mouvement no-code. Ça, c'est important pour moi, pour de vraiment expliquer un peu les choses. Et voilà, et ça, mais bon, si vous voulez revenir là-dessus, là, je vais me concentrer sur la question de est-ce que le no-code est mort, un petit peu comme ça, vague. Mais voilà, et donc, finalement, ce qui est important de comprendre, c'est quand vous utilisez des outils no-code, vous faites principalement deux choses. Vous concevez ce que vous allez faire. Donc, admettons, vous voulez faire une petite application qui permet aux gens de gérer leur tâche quotidienne. Mais d'abord, vous devez la concevoir. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette application? Quels écrans elle va avoir? Comment elle va s'appeler? Quel est son design? Tout ça, c'est la conception un petit peu au sens large. Ça, c'est important. Et oui, effectivement, les IA peuvent vous aider là-dessus, voire le faire pour vous. N'empêche que si c'est vous qui le faites, c'est vous qui connaissez le besoin. Imaginons que vous voulez faire spécialement les tâches quotidiennes pour, je ne sais pas, les mères de famille, dans un endroit précis, c'est vous qui connaissez vos utilisateurs, vos utilisatrices. Donc ça, c'est la conception. Et puis ensuite, il y a l'implémentation. L'implémentation, c'est vraiment de réaliser techniquement ce produit que vous voulez faire. Et pour ça, eh bien, effectivement, on ne va pas se mentir, il y a des nouvelles manières de faire. Il y a des nouvelles manières de faire qui, des fois, sont meilleures, des fois, rendent obsolètes les anciennes manières de faire, ou des fois, qui sont juste une autre manière de faire. Vous voulez faire une application de gestion de tâches quotidiennes, vous pouvez la faire avec Bubble, mais vous pouvez aussi la faire de manière très simple avec Airtable. Vous pouvez la faire avec Software plus Airtable. Vous pouvez faire, vous voyez, vous avez plein de manières de faire. Et donc, effectivement, une nouvelle manière de faire en plus que vous avez désormais, c'est d'utiliser un outil comme Bolt, comme Lovable, comme Cursor, tous ces outils de vibe coding que j'évoquais dans l'épisode précédent. Mais vous pouvez aussi les faire avec, par exemple, l'IA qui a été intégrée dans Airtable. Vous pouvez le faire avec l'IA qui a été intégrée dans Bubble, dans WeWeb. Vous voyez, donc ça, il y a aussi une forme d'hybridation sur laquelle je reviendrai. Mais donc, ça, c'est pour moi, c'est qu'une autre manière de faire. La question, c'est, ça a toujours été la même, on en parle depuis 6 ans, c'est quelles sont les bonnes manières de faire. En fait, il n'y a pas. Cette réponse, c'est la même quand avant, nous demander, ah, bah, c'est quoi, quel outil pour utiliser ce que j'ai fait. C'est pour ça qu'à l'époque, j'avais fait un site, quelsoutilsnocode.fr, voilà, pour essayer un petit peu de catégoriser ces outils. Sauf que la vérité, c'est que, ça vous le savez si vous avez déjà suivi des formations contournement, on explique bien, il n'y a pas d'outils pour tout le monde, il y a des outils pour des projets pour des profils. Les outils, c'est vous, suivant votre technicité, par exemple, suivant votre background, eh bien, vous allez pouvoir utiliser certains outils, mais des fois, c'est pas suivant seulement ça, c'est aussi suivant le budget que vous avez et aussi suivant la tâche que vous voulez réaliser. Vous pouvez être hyper technique, mais si vous travaillez, par exemple, pour une asso qui n'a pas beaucoup de moyens, peut-être que vous serez contraint d'utiliser certains outils qui seront pas chers. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment très important de garder ça en tête. Et donc, maintenant, c'est juste que cette palette s'est élargie. Et pour certains d'entre nous, j'ai envie de dire, eh bien, on peut aussi utiliser des outils de génération, de code. Même dans ces outils, ils ne se valent pas tous. Vous avez des outils de plus haut niveau, comme Bolt et Lovable, où juste vous dites « je veux une application, machin ». Et puis, vous faites ça, et puis limite, vous ne regardez même pas le code, ce que j'évoquais avant. Mais vous avez aussi des outils comme Cursor ou Windsurf, où là, vous allez être beaucoup plus proche de du code, vous verrez les fichiers, vous pourrez choisir, etc. Et donc, vous voyez, déjà, ce n'est pas les mêmes typologies. Donc, c'est exactement comme avant. Comme avant, il y avait des gens qui pouvaient facilement utiliser Software, d'autres qui pouvaient utiliser Bubble. Et ensuite, bon, c'est suivant aussi. Est-ce que vous vous formez? Est-ce que toutes ces choses-là? C'est toujours vraiment les mêmes choses. Donc, en fait, je comprends, et je l'ai expliqué au début, qu'il y ait cette confusion et cette forme un petit peu de panique, un peu, j'exagère un peu quand je dis ça, mais parce qu'il y a des vraies choses, hein, il y a des vraies menaces qui changent. C'est-à-dire que, par exemple, pour les agences, pour les freelances, déjà, de toute façon, c'était déjà le cas avant, hein, mais est-ce que les agences no-code ont remplacé toutes les agences de code traditionnelles? Non. Donc, il faut savoir s'adapter. Ça, par contre, c'est vrai que c'est dur, depuis quelques années, pour les agences traditionnelles, ça devient dur maintenant pour les agences no-code, c'est vrai, et on va changer, parce que c'est vrai que on a besoin de moins de gens grâce à l'IA qui sont impliqués dans la création d'applications, de choses comme ça. Mais il faut s'adapter, il y a aussi des opportunités à saisir. Donc voilà, moi je pense que une de mes conclusions, parce que là ça fait quand même déjà un bon quart d'heure que je parle, et je pourrais un peu tourner en rond autour de tout ça, mais moi ce que j'ai envie de vous dire quand même, c'est que je pense que on en revient toujours à la même chose, c'est faux. Avoir des bases techniques de plus en plus solides si vous voulez aller sur des outils de plus en plus puissants. Et je pense qu'il sera toujours OK, avec de l'IA ou non, d'utiliser des outils simples si vous êtes dans un contexte où eh ben, vous ne voulez pas forcément que vous n'avez pas le temps de vous former ou que vous n'avez pas la nécessité vraiment d'utiliser des outils très complexes. Ça, je pense que c'est vraiment important de l'avoir en tête, parce que Attendez, je suis un peu perdu, là, entre des réflexions très profondes que j'ai et la nécessité de traverser la route. En plus, ici, il traverse toujours la route vraiment au niveau des passages piétons. Or, le passage piéton est un peu loin. Donc voilà, bon, j'espère que là, le son ne va pas être trop catastrophique. Mais normalement, je pense que ça devrait aller quand même. Quand même des micros de qualité maintenant sur les téléphones. Donc voilà, alors, attendez. Ah, je vais pouvoir faire un petit traversage de route. Et je reviens tout de suite à ma pensée. Alors, donc oui, j'évoquais donc, voilà, moi je pense que tout le monde ne doit pas devenir vibe codeur, de la même manière que tout le monde ne devait pas forcément devenir no codeur ou no codeuse, et que certainement pas tout le monde doit devenir codeur professionnel. Ça, c'est déjà le fond du truc. Donc, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que vraiment faites attention au FOMO, à mon avis. Et moi aussi, je le subis, mais maintenant que j'essaye de m'éclaircir un petit peu les idées, de prendre du recul, me dit bon bah oui, voilà, moi, par rapport à mon background, il y a certaines choses, certains outils que je peux utiliser et qui ont du sens. Et je me suis un peu perdu. Je suis un peu perdu à la fois dans mes pensées. C'est marrant parce que je voulais faire cet épisode en marchant. Maintenant, je me suis un peu perdu là dans mes pensées parce que je suis un peu perdu physiquement dans la ville et j'aimerais bien retourner. Ah non, si, c'est bon, je crois que j'ai retrouvé le petit chemin par lequel je suis venu. Bah, désolé, hein, cet épisode, voilà, c'est. J'en ferai une synthèse, je pense, dans un post LinkedIn un petit peu mieux structuré. Voilà, pour les gens qui veulent le TLDR. Bon, je suis passé chez quelqu'un, là, c'est pas très grave. Voilà, mais bon, bah moi, c'est comme ça, hein, que j'ai envie de faire mon contenu, donc voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Donc, je reviens à mon point un petit peu de maintenant qu'on a dit tout ça, quelle est la marche à suivre, quelles sont les opportunités. Pourquoi est-ce qu'on... Bon, il faut se soucier de ces choses-là. Si vous écoutez ce podcast, c'est probablement que vous vous posez des questions. Je n'ai pas forcément les réponses. Et je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails des outils, des choses comme ça. Moi, ce que je dirais quand même, c'est que si vous êtes intéressé à vraiment utiliser professionnellement les outils no-code, il va falloir un petit peu voir vers quoi vous vous spécialisez. Et donc, moi, je pense que dans tous les cas, ce qu'il est important, c'est d'avoir des bases techniques solides. Avoir des bases techniques solides, bon, ça fait longtemps que je parle de ces choses-là, ça ne veut pas dire être développeur ou développeuse. Ça ne veut pas dire forcément savoir écrire du code. Ça ne veut pas forcément savoir lire du code. Lire du code, ça va commencer à devenir intéressant. Mais en fait, ce que vous devez développer, c'est un socle de compétences. Et c'était très bien dit d'ailleurs dans la vidéo de Y Combinator, dans l'épisode de podcast, il dit « Vous devez développer un taste, vous devez développer en fait un goût, une appétence pour la technique. » Et moi, je suis convaincu depuis au moins 6 ans, que les outils no-code vous donnent cette appétence. Donc, dites-vous bien que tout ce que vous avez appris, quel que soit votre niveau, vous met sur le chemin, de toute façon, d'utiliser des outils plus avancés. De la même manière qu'on le disait chez Contournement, voilà, avant de vous former à Make, formez-vous à Zapier. Vous apprendrez à faire des automatisations, vous comprendrez déjà un peu le paradigme, le principe de l'automatisation. Une fois que vous êtes formé à Zapier, c'est plus facile de se former à Make. Une fois que vous êtes formé à Make, c'est plus facile de se former à Nutan. Voilà, c'est un chemin comme ça, parce que dans Make, vous allez apprendre aussi un petit peu plus que c'est les API, le JSON, etc., ce qui sont des indispensables pour aller sur Nutan. Vous voyez, donc, ça, c'est juste sur l'automatisation, c'est vrai aussi pour la création d'applications. Donc ça, de toute façon, ça ne change rien. Par contre, ce qui change, c'est que si vous faites ce chemin et que vous développez des compétences, vous allez développer ce taste, un petit peu ce goût, un peu ce feeling. Moi, j'utiliserais plutôt le mot de feeling. En fait, c'est vraiment un feeling de plus vous allez, et c'est l'expérience hein, en réalité, le bon mot. Voilà, moi, ça fait des années que je travaille avec des outils, avec du code, avec des choses comme ça. Eh bien, voilà, j'ai un feeling, c'est-à-dire je comprends, je sens un petit peu comment se passent les choses quand maintenant je développe avec, en utilisant Bolt et Lovable. Mais ce que je dois dire aussi, c'est que vous n'êtes pas, à mon avis, obligé d'aller utiliser Bolt et Lovable. Vous devez, à mon avis, ça vaut le coup pour tout le monde d'essayer, pour comprendre de quoi on parle, et peut-être comprendre un peu ce que j'évoquais au début, ce sentiment de confusion, etc., et se faire une idée un petit peu par soi-même, mais ça n'est pas du tout obligatoire. Voilà. Donc c'est qu'une évolution logique, et donc finalement ça me raccroche un petit peu à ce que je disais dans mon épisode précédent. Vraiment, pour moi, c'est juste une autre manière de faire qui est de l'ordre du no-code. La programmation conversationnelle, avec Bolt, avec Lovable, avec Cursor, avec Windsurf, avec ce que vous voulez, avec directement dans les outils de type ChatGPT, c'est que ça. Et en fait, ça peut vous rendre des services, même si vous êtes dans une approche plus no-code traditionnelle, c'est-à-dire de programmation visuelle, et ben ces outils-là, ils vont vous permettre de repousser les limites. Et je l'ai dit, franchement, ça c'est un truc vraiment, je l'ai dit déjà dès 2023. C'est-à-dire que quand vous atteignez les limites de Airtable, ce qui va vous permettre de repousser les limites, bon, c'est soit du bidouillage vraiment de no-codeur et de no-codeuse, soit c'est tout simplement un petit script Airtable. Et ce script Airtable, vous n'avez pas besoin de l'écrire vous-même, vous allez pouvoir le faire avec un outil de programmation visuelle. Est-ce que vous faites du vibe coding quand vous faites un script Airtable? Je ne sais pas, probablement, puisque vous allez faire quelque chose que vous n'allez pas relire, vous allez juste le copier-coller dans Airtable et vous allez espérer que ça marche. Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment plein de manières de faire. Là, je commence un peu à me répéter, hein, je suis désolé, mais c'est aussi parce que comme je marche en même temps et que j'essaye de me repérer dans la ville, mes idées ne sont pas aussi claires. Il faudrait limite que je demande à une IA de faire un montage de cet épisode. Mais voilà, c'est aussi parce que ça vient un peu du cœur, c'est-à-dire que je parle, voilà, j'essaye de dire les choses sincèrement, de toute façon, c'est ce que je fais toujours, et ça prend un peu de temps, mais voilà, vous inquiétez pas, on arrive sur la fin. Donc voilà, en fait, pour moi, quelque part, rien n'a changé, à part qu'il y a beaucoup de bruit et qu'il y a beaucoup de choses d'évolution technologique un peu impressionnantes. Et donc, tout ça mis ensemble, eh ben, ça fait qu'effectivement, des choses que l'on pense depuis 2 ans commencent à se matérialiser. Je vous invite vraiment, et c'est pas pour me mettre en avant, mais à regarder ma conférence sur le no-code, le low-code, le code du Web Today de 2023, parce que, en fait, quelque part, j'avais déjà un petit peu pressenti tout ça. C'est juste que, en fait, là, c'est en train d'arriver. Et c'est en train d'arriver beaucoup plus fort et plus vite que ce que l'on imaginait, je pense, tous. Et c'est pour ça que c'est pas évident à prendre en compte. Voilà, maintenant, je vais me livrer un petit peu à une petite conclusion pour essayer un petit peu de rassembler mes idées. Si vous êtes encore là, vous écoutez après 24 minutes. Déjà, je vous remercie. En plus, là, je suis en train de monter une petite colline pour aller retrouver ma maison. Mais voilà, première chose, c'est que finalement, ce que je dirais tout simplement, c'est que non, clairement, le no-code n'est pas mort. On assiste simplement à sa prochaine mutation. On est en plein dedans. Et j'aimerais rappeler que vraiment, et c'est pour ça que je redonnais un petit peu ma définition du mouvement no-code, c'est que le mouvement no-code n'a jamais été spécifique à un outil, ou à des outils, ou à une manière de faire. Pour moi, c'est avant tout un état d'esprit. C'est une envie de s'emparer de la technologie, voilà, comme ça, dans une vague un peu émancipatrice, sans trop utiliser des grands mots et tout. Et donc, si vous avez envie de vous approprier la technologie, c'est pas une question d'outil, c'est une question d'attitude, de faire les bons choix, de se poser les bonnes questions, de se former, et de faire preuve d'un peu de discernement. Oula, beaucoup d'oiseaux là qui m'ont fait un peu peur. Je suis arrivé au sommet de la colline, je suis un peu essoufflé, et ça tombe mal parce que c'est le moment où j'avais envie d'être un peu dramatique pour faire ma conclusion. Donc voilà, moi, par rapport au mouvement no-code en tant que tel, je pense qu'il n'est pas mort, pas du tout. Je pense qu'il est bien vivant, parce que la preuve, c'est que quand on le remue un petit peu, eh bien, on voit bien que les gens s'agitent de tous les côtés. Et donc, il y a trois tendances un peu que je vois. Au niveau des outils, il y a une tendance d'hybridation. On le voit bien, l'intégration de l'IA dans WeWeb, dans la version 3.0 de WeWeb, est franchement impressionnante. C'est vraiment, donc voilà, vous voyez, on est toujours dans un outil no-code qui va simplement tirer profit de l'IA pour pouvoir faire encore des nouvelles choses. Donc, voilà. Et est-ce que c'est de l'IA du vibe coding? En fait, quelque part, on s'en fout. WeWeb, ce qui est sûr, c'est que c'est un outil qui est puissant depuis des années. Les gens l'apprécient. Bubble encore plus, et ils ne font que faciliter, encore rendre plus accessible. Et finalement, ça, c'est quand même l'essence du mouvement no-code, et c'est pour ça que WeWeb est un outil fondamentalement no-code. C'est cette envie de rendre accessible au plus grand nombre, démocratiser l'accès à la technologie. Et voilà, ça, je vous invite à écouter l'épisode de podcast que j'avais fait avec Raphaël, le fondateur, un des cofondateurs de WeWeb, pour vraiment revoir ça. Donc, vous voyez, cette hybridation. Une autre tendance, un peu, ça va être la spécialisation. Et moi, ce que je dirais, c'est que sur la partie automatisation, etc., un petit peu traditionnelle, à destination des entreprises, eh ben, très franchement, je pense que les outils que l'on utilise actuellement ne vont continuer à être utilisés pendant longtemps. Moi, je ne me fais pas du tout de soucis pour Zapier, Make ou N8N, parce que ces outils-là, ils sont solides, ils sont robustes. Faire des automatisations précises et prédictives, ça va continuer à exister. Oui, on va commencer à mettre en place des agents, évidemment, mais on va aussi toujours avoir besoin d'automatisation fiable et pas d'automatisation approximative comme sont les agents actuellement. Le côté approximatif rend aussi des services, parce qu'il amène de l'intelligence et de l'autonomie, mais des fois, on sait exactement ce qu'on veut faire, c'est juste de la programmation. On veut dire quand il y a telle information en entrée, on veut telle information en sortie, et par contre, ce qu'on veut, c'est de la robustesse, parce que ces IA, ces agents, n'oublions pas de dire que ils n'arrivent pas à répondre, des fois, c'est pas toujours fiable, ils ne comprennent pas la demande. C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Je le disais hier dans l'épisode sur le vibe coding, ces outils ne sont pas encore matures. Donc, vous n'allez pas encore les amener forcément en entreprise. Par contre, pour prototyper des choses, oui, comme les outils no-code d'il y a 5 ans, on disait c'est très bien pour le prototypage, mais ça ne passe pas à l'échelle. C'est plus vrai. On a plein d'exemples d'outils no-code qui passent à l'échelle. Mais par contre, ces outils-là de vibe coding, je pense que ce n'est pas encore le cas. Donc, par contre, c'est vrai que sur tout ce qui est side project, lancement de MVP, démarrer des petits projets, des idées, ces idées du week-end, bon bah oui, clairement, le vibe coding est très très intéressant, on va pas se mentir. Ça, il faut aller voir, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide que d'aller même avec des outils no-code qu'on maîtrise bien. Voilà, après, jusqu'où on peut aller, ça c'est une question. Moi, honnêtement, au bout de 10-12 itérations dans Bolt, je commence à perdre un peu les pédales. Et c'est là où un bubbler qui serait en train de faire son application, avec Bubble, il aurait peut-être mis un petit peu plus de temps au début, mais quand moi je serais en train de tourner en boucle dans Bolt, lui il continuerait à avancer à un rythme régulier, à un truc solide. Donc voilà, là ce que je dis là va évoluer parce qu'évidemment Bolt, etc. sont en train d'évoluer très très vite, et donc est-ce que ça sera toujours là ce que je dis, qu'il commence à perdre les pédales et tout, est-ce que ça sera toujours vrai dans un mois, deux mois, un an? Bon bah je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les outils no-code, bah, ils continuent à s'améliorer aussi, sont déjà stables depuis des années, donc vous voyez, ça marche ensemble. Et surtout, troisième tendance que je dirais, c'est qu'il y a plus que jamais besoin de devenir bon, d'être bon en conception, en compréhension du besoin. Parce que ça, moi, je ne crois pas une seule seconde pour l'instant que les agents, les Manus, les Claude 3.7, même si j'adore ce modèle, vont vous remplacer là-dessus. Quand on est en train de parler avec un client, je ne sais pas, le patron d'une petite PME qui a besoin d'améliorer sa logistique, de se débarrasser de formulaires en papier, eh ben, vous ne pouvez pas donner ça directement. Il faut d'abord comprendre son besoin, accompagner sa solution, peut-être l'aider déjà en amont à optimiser un petit peu son processus. Et ensuite, réaliser la solution et l'implémentation, et ben ça, à vous de voir comment vous la faites, avec du code, avec du no-code, avec du low-code, ça, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais voilà, donc ça a besoin, vraiment cette attitude de consultant, de concepteur, de conceptrice. Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'on vous dit, hein, de toute façon, depuis longtemps aussi. Hein. Enfin, j'ai insisté là-dessus, on le fait chez Contournement, il y a plein d'autres gens qui le disent. On en a parlé à No-Code Week, il y avait des super talks de Dylan, de Manon sur ces sujets-là. Voilà, ça, c'est hyper important. Donc, je ne peux que insister là-dessus et je pense que c'est vrai plus que jamais. Par contre, l'IA peut vous assister à chaque étape de la création de votre produit et les plateformes aussi vont intégrer ça. C'est un peu la vision qu'ils ont chez WeWeb, par exemple, d'avoir même en amont de l'implémentation des outils qui vous aident à faire vos user stories, votre conception, etc. Donc voilà, par contre, voilà, ce sera peut-être un petit peu ma conclusion finale et donc on arrive sur un long épisode, mais au moins comme ça, j'ai mis toutes mes pensées tout en étant un peu perdu dans la ville de Shiogama. Mais c'est que, par contre, le danger, c'est le même que celui pour les développeurs et pour tous les gens il y a quelques années, c'est de rester statique, de ne pas évoluer, de ne pas suivre les tendances. Oui, si vous restez à faire des petites automatisations comme vous faisiez avant et que vous ne regardez pas un petit peu les agents, ou surtout comment mettre de l'IA à l'intérieur de vos automatisations, bah oui, ça va être compliqué. Il faut suivre, il faut faire preuve de discernement, il ne faut pas non plus subir le shiny object syndrome, d'aller vers tout ce qui est un peu brillant. Voilà, attendez, mais spécialisez-vous et développez des compétences plutôt que d'aller faire un petit peu de vibe coding, un petit peu de ci, un petit peu de ça, sans avoir des bases solides. Voilà, c'est pas la peine, à mon avis. Donc voilà, donc c'est pas la mort du mouvement no-code, certainement pas. Il s'élargit, tout simplement, avec des nouvelles technologies, avec des choses qui sont enthousiasmantes, d'autres qui sont à regarder un petit peu avec précaution. Mais voilà, pour moi, et c'est très bien, parce que ça, tout élargissement monte, ça veut dire qu'on continue à démocratiser, et on continue à produire des choses. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'était une très longue réponse. Je ferai une version plus courte dans un petit post LinkedIn, mais je pense que ça valait le coup. En tout cas, voilà, pour tous les gens qui me posaient la question, vous avez mon avis. J'espère que vous avez écouté jusqu'ici. Vraiment, c'est aussi pour ouvrir la discussion, comme je disais dans le dernier épisode. Venez sur le Slack de NoCode France, sur le channel Media IAX NoCode, où on va pouvoir parler de tout ça. On va continuer la discussion. Et puis voilà, peut-être j'ai pas répondu à certaines questions très précises. Je le ferai sur le Slack éventuellement, ou n'hésitez pas à m'envoyer même en privé. Hein. J'ai aucun problème avec ça. Voyez-moi si vous avez des questions plus précises. J'ai pas tant que ça à parler, mais j'en ai parlé un peu la dernière fois, mais de la maturité, des choix. Est-ce que les no-codeurs, les no-codeuses doivent passer tout de suite sur des outils de vibe coding et abandonner Bubble, etc. J'ai pas envie de donner des réponses définitives à ça. Moi, ce que je vous ai donné, c'est une vision un peu globale de ce sujet. Et à vous, encore une fois, ça dépend des profils. Donc à vous aussi de prendre un petit peu ce que j'ai dit, de tester, comme on disait pareil, de toute façon, avec les outils no-code, tester, trouver ceux qui vous vont bien. Mais si vous vous posez la question, ça veut dire que si vous connaissez pas la réponse, ça veut dire que vous n'avez pas forcément testé, vous n'avez pas forcément fait votre propre avis, et personne ne pourra le faire pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut.